La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Roland Barthes a vécu dans ce qu'il appelait l'angoisse de délicatesse. La peur de la blessure ou du retentissement et le désir d'être comblé ont constitué autant de traits de personnalité qui ne sont pas sans importance pour l'œuvre, cette œuvre dans laquelle Barthes a traqué l'oppression que le langage fait peser sur les êtres et revendiqué la liberté d'analyser la littérature d'une nouvelle manière, plus libre et plus personnelle pour chaque lecteur. Sa vie et en particulier ses premières années, nous en avons parlé hier. C'était avec Tiphaine Samoyau au cours d'une émission à réécouter évidemment en podcast. Demain, nous parlerons plus précisément de quelques concepts barthésiens liés à la critique littéraire, en particulier de la notion de plaisir du texte, parallèle mais différente de l'idée de jouissance du texte. Nous serons pour ce faire avec Carlo Ossola, professeur au Collège de France, puis avec Mathieu Messager de l'Université de Nantes. Enfin, jeudi, c'est du rapport de Barthes avec la musique dont il sera question, en compagnie de Claude Coste, qui a dirigé un ouvrage sur le sujet aux presses universitaires de Rennes. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour un parcours au sein des œuvres principales de Roland Barthes, nous sommes avec vous, Éric Marty. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez édité ses œuvres complètes aux éditions du Seuil, où vous dirigez aussi l'édition de ses cours et séminaires. On peut signaler par exemple celui donné au Collège de France, intitulé « La préparation du roman », que vous avez donc édité avec Nathalie Léger en 2003, mais qui vient de reparaître dans la collection de poche Point Seuil. Vous êtes par ailleurs l'auteur d'un livre intitulé « Roland Barthes, le métier d'écrire », toujours au Seuil. En 2006, qui se présente comme un essai, mais qui est aussi un témoignage où vous dressez son portrait par le regard du jeune homme de 20 ans que vous étiez quand vous l'avez rencontré. Qu'est-ce que sa rencontre avec lui a changé dans votre vie, et peut-être d'abord dans votre vie intellectuelle ?
En fait, elle n'a rien changé, puisque avant, je ne vivais pas tellement. Enfin, à 20 ans, on n'a pas vraiment de vie. Donc, elle a plutôt inauguré quelque chose. Et c'est plutôt une sorte de moment initiatique, de moment de commencement, d'entrer dans la vie, hein, le jeune homme qui entre dans la vie et qui entre dans la vie précisément par une rencontre et donc qui ne perd pas trop de temps. C'est ce sentiment-là que j'ai eu, c'est d'avoir, en effet, d'ailleurs comme en fait beaucoup de cette génération-là, on a tous été très vite. Je pense souvent à l'époque napoléonienne où on était général à 20 ans. On peut dire que la génération qui a commencé à penser dans les années 70 a eu également cette chance d'aller très vite et de pouvoir, en effet, à 19 ans, 20 ans, être en contact avec un maître et de pouvoir penser dès cet âge-là et donc de commencer à vivre à ce moment-là.
Est-ce que Barthes est un accélérateur de vie ?
Oui, un accélérateur incroyable, et comme toute l'époque, d'ailleurs, a été un accélérateur. C'est une époque très de vitesse. On pense très vite, on modifie d'ailleurs très vite ses propres pensées et... Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'aujourd'hui, on vit une forme de régression assez inouïe, précisément, de cette rapidité, de cet sentiment de nouveauté, d'exigence, et qu'il y a une forme d'aplatissement contemporain.
Et qui serait dû à quoi, en deux mots ?
Je crois que c'est des phénomènes tout à fait cycliques, au fond. Peut-être qu'il y a des phénomènes d'épuisement, des phénomènes tout simplement très mécaniques, où générationnellement, les choses ne peuvent pas se prolonger, que quelque chose a eu lieu, un événement a eu lieu, puis après, voilà, il faut reconstruire, et c'était pas évident.
D'abord, nous savons bien qu'en fait, on pense toujours avec du langage, qu'on pense en parlant, qu'on parle en pensant, qu'il n'y a pas de pensée préalable au langage qui est en nous, finalement, et par conséquent, et en plus, dans certains cas, comme le mien, penser est immédiatement lié à une forme que je visualise déjà comme une forme écrite, voyez-vous. C'est au fond, j'ai tendance, et c'est peut-être un peu ambigu, mais j'ai tendance à penser par phrase, disons, et non pas à penser par pensée. Et c'est en cela que peut-être ma situation est un peu difficile à repérer. Je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un penseur, je ne suis pas non plus peut-être tout à fait un écrivain comme on l'entendait il y a 50 ans. Je vais de la pensée à la phrase et réciproquement. Et c'est cela qui est un peu difficile à situer.
Je vais de la pensée à la phrase, disait Roland Barthes à Jacques Chancel. Est-ce que Barthes vous a appris, Éric Marty, vous aussi, à penser d'abord par la phrase ?
Je ne sais pas s'il m'a appris ça. Je sais qu'en fait, parce qu'en fait, c'est pas forcément de l'ordre là de l'apprentissage. Peut-être plutôt de l'imitation. Au fond, un maître, c'est aussi quelqu'un qu'on imite, à qui on veut ressembler. Et peut-être ai-je pris en effet des formes de ressemblance, mais pas vraiment d'un savoir, d'une doctrine qui serait transmise. Plutôt des formes donc de mimétisme qui sont qu'aujourd'hui on discrédite, on trouve ça très mauvais, limité. On parie justement toujours sur le caractère original de l'individu. Eh bien non, il y a aussi des transmissions qui se font par imitation. Alors peut-être en effet, la phrase, le rythme de la phrase, la façon de vivre la phrase, le fait d'être dans la phrase, car quand Barthes dit cela, il ne dit pas en réalité ce qui est pourtant le plus important, à savoir qu'il pensait pas seulement par phrase, il vivait par phrase. C'est ça qui m'a beaucoup frappé dans sa fréquentation, c'est que sa vie, son quotidien, sa manière d'être, ses regards, ses gestes, sa façon de s'habiller ou de marcher même, avait quelque chose de la phrase, était phrasé en quelque sorte.
Il lui-même disait que quand il parlait comme il écrivait,
oui,
et qu'il construisait ses phrases, même à l'oral, comme il les aurait construites à l'écrit.
Tout à fait, ce qui était un peu effrayant en même temps. C'est-à-dire que c'est aussi, à la fois c'est donc fascinant et en même temps effrayant, parce que ça suppose en même temps de ne pas tout à fait vivre. Ça suppose qu'en effet, le langage comme structure est en quelque sorte un habit, une forme d'enveloppe de laquelle on ne sort pas. Et donc il y a quelque chose qui est peut-être de l'ordre, en effet, pas du monstrueux, mais d'une forme d'isolement par rapport à autrui.
Quelle a été l'obsession de Barthes ? Est-ce que ça a été de chercher le sens, la signification de tout et partout, que ce soit la signification de la littérature, mais aussi de la photographie, mais aussi de l'amour, mais aussi du discours sur l'amour, mais aussi de la France contemporaine et des images de la France contemporaine. Est-ce qu'on peut résumer comme ça les choses de l'apport de Barthes ?
On peut résumer ça ainsi, à condition de poser un préalable. C'est d'abord justement de ne pas chercher le sens d'abord, c'est-à-dire d'abord de vouloir lire le monde, d'établir le monde comme un système de signes, comme un ensemble de signes ou de marques ou de traces. Et c'est seulement à partir de cette opération par où on a réduit le monde à cet ensemble, à cet empire des signes au fond, à ce système de signes, qu'alors on peut en effet peut-être décoder, interpréter, lire. Mais vouloir penser le monde, penser les objets sans avoir préalablement en quelque sorte réduit ce monde à du langage, alors c'est tomber dans le bavardage peut-être ou dans une forme d'interprétation subjective qui n'est pas celle que Barthes opère. Barthes est à la fois quelqu'un qui est très très personnel, très individuel, en même temps c'est aussi quelqu'un qui vit le système, qui vit le monde comme système, qui vit sa pensée comme système. Et ce système, il est avant tout régi donc par l'idée que le monde ne se donne à nous que sous la forme de signes, qu'il n'y a pas d'appréhension de la réalité autrement que par le biais des signes et du langage, et que dès lors, c'est ce langage que l'on interprète, et donc pas forcément la chose elle-même, en quelque sorte, qui nous échappe de toute façon, et qui est dans une forme d'éloignement ou d'impossibilité d'être atteinte autrement donc que par cette idée que ce sont les signes que nous devons lire.
Donc ça, c'est l'ensemble de l'œuvre de Barthes. Il n'a au fond jamais dévié de cette idée qu'il a creusée au fur et à mesure de ses livres. Est-ce que vous diriez que cette œuvre, qui est une œuvre de fragments, on pourra peut-être revenir sur cette notion, est une œuvre totalement cohérente ?
Alors c'est une question vraiment très importante, et j'ai bien aimé que vous intituliez cette émission la positive œuvre de Barthes ou l'œuvre positive de Barthes. Enfin, l'idée qu'il y avait une œuvre positive.
Oui. Qu'est-ce que ça veut dire positif là, dans
voilà,
ce
c'est
sens-là.
Ça, c'est vraiment important. au sens d'une œuvre qui est établie, qui a une assise, qui a une cohérence, qui a une existence. Ça, c'est ce que j'ai fait, en fond. En fond, en établissant les œuvres complètes, j'ai eu vraiment le désir d'une clarté, d'une sorte de, oui, de grande clarté et de grande évidence d'une œuvre qui existait positivement au sens d'un fait. Maintenant, Barthes lui-même n'avait pas forcément envie, lui, de l'œuvre. Au fond, l'un de ses textes, c'est par exemple de l'œuvre au texte, c'est l'idée qu'au fond, l'œuvre doit être détruite au profit de sa dissémination dans le texte, dans le fragment, dans l'oscillation, dans la scintillation, dans une forme de dissémination des choses.
Parce que l'œuvre est déjà oppression?
Peut-être. Mais justement, c'est là où on se rend compte que l'œuvre échappe à son auteur, en quelque sorte, et que ce sont aux autres, aux lecteurs, de faire ça, de faire œuvre justement à la place peut-être de l'auteur.
Et ça, pour le coup, c'est barthésien.
Voilà, absolument. Et on pourrait dire que Barthes a vécu lui-même l'écriture peut-être sur un mode presque blanchotien de désœuvrement ou de défection ou d'impossibilité ou de textualité, mais que l'idée d'œuvre n'était pas pour lui quelque chose qui, au fond, était positif parce que ça supposait qu'il y aurait eu un but, une sorte de finalité qu'il ne voulait pas justement voir parce que c'était, au fond, la vie, l'instant même qui devait décider des choses et non pas une sorte de projet comme ça qui aurait une dimension presque mortelle, quoi, de se donner un but trop fixe. Mais évidemment, une fois que l'auteur est mort, à ce moment-là, les vivants, eux, peuvent faire œuvre à la place de l'auteur, en quelque sorte, et être l'autre de l'écrivain, cet autre qui est là comme pour construire une chose qui, rétrospectivement, finalement, fait de tous ces textes qui sont multiples, très différents, et bien d'en faire, en effet, un volume, un ensemble de 5 volumes qui ont une parfaite cohérence.
Alors on va essayer de le parcourir, enfin de parcourir ces 5 volumes d'œuvres complètes. Il faut commencer d'abord en disant que c'est par l'écriture d'articles que commence l'œuvre de Roland Barthes, des articles qui vont notamment mener à ce livre qui a pour titre une formule restée célèbre, le degré zéro de l'écriture. Je propose d'écouter, avant d'en parler, comment Barthes lui-même résumait ce projet du degré zéro de l'écriture. C'était en 1971 et il s'adressait à Jean-José Marchand.
Précisément à cette époque-là, c'est-à-dire au lendemain de la Libération, disons que les deux grandes assises du travail intellectuel étaient communément le sartrisme d'une part, le marxisme d'autre part, c'est-à-dire, disons en gros, deux philosophies de ce qu'on appelait alors l'engagement. Or, à la fois le sartrisme et le marxisme, qui pensaient si profondément l'engagement politique, l'engagement idéologique, et disons en gros l'engagement des idées ou des conduites, ne s'étaient jamais préoccupés de ce qu'on pourrait appeler l'engagement des formes. La responsabilité des formes, la responsabilité du langage. Alors, au fond, le degré zéro visait, avec des moyens très faibles, bien entendu, intellectuellement, mais le degré zéro visait à combler cette lacune et à proposer une première réflexion sur ce qu'on pourrait appeler la responsabilité de la forme, la responsabilité du langage.
Compagnie des auteurs. Qu'est-ce que cela signifie, Éric Marty, une forme qui aurait une responsabilité, un langage qui aurait une responsabilité?
D'abord, c'est déjà frappant, c'est que Barthes invente le formalisme en quelque sorte, alors qu'il n'est pas donné historiquement comme étant une pensée à ce moment-là dominante, qui va l'être plus tard, dans les années 60, mais en août 47, Barthes publie dans Combat, un quotidien, un article qui s'intitule « Le degré zéro de l'écriture ».
C'est quand même inouï. Sur l'étranger de Camus.
C'est quand même inouï parce que c'est une formulation qui est absolument incompréhensible pour le lecteur moyen. Ce n'est pas du tout un titre de journal. Et Barthes lance cette espèce de formule énigmatique. Et c'est là, il me semble-t-il, quelque chose d'important qui se passe. Barthes, donc après la guerre, commence à écrire, commence à penser, mais il pense qu'au fond, dans l'horizon qui est le sien, savoir un horizon où on réfléchit à partir des moyens que l'on a à ce moment-là. Il écrit un texte qui s'appelle « L'avenir de la rhétorique » en 1946, qui est son premier grand texte, qu'il ne publiera pas, que j'ai publié plus tard dans l'album du centenaire, mais qui est un texte qui, au fond, fait de Barthes une sorte de futur Starobinsky, une sorte de futur Genette, un essayiste français. Voilà. Mais quelque chose se passe entre avril 46 et août 47, le moment où ce texte paraît donc dans le combat, c'est cette trouvaille, cette volonté de chercher un signifiant qui le dissocie de tout ce qui se pense au même moment. Mmh. De trouver une formule un peu opaque, un peu énigmatique, qui soit justement cette espèce de point de décision, de point de formulation, de butée, qui pose un point d'impasse, un point d'énigme, qui est donc cette notion de degré zéro qui, même une fois qu'on a lu le livre, reste tout de même très, très difficile à comprendre. Qui part d'un linguiste danois, Brandal, que personne ne connaît bien à ce moment-là, qui a publié sa thèse sur le langage, mais où Barthes a-t-il trouvé tout ça? Et pourquoi fait-il cette opération très étrange de parler, en quelque sorte, un français en langue étrangère? Car le degré zéro de l'écriture, c'est une fausse, au fond, c'est pas du français. C'est une formulation qui est comme traduite d'autre chose.
Alors, est-ce qu'on peut dire que ce degré zéro de l'écriture, ce serait un texte, une écriture qui serait débarrassée du mythe que le langage, que la culture accumulée et traduite en texte, emploie systématiquement, qu'on retrouve systématiquement dans les romans jusque-là?
C'est cela. C'est au fond, le degré zéro de l'écriture, c'est l'écriture, c'est moins la littérature. C'est au fond l'écriture qui serait débarrassée de la littérature. Ce que Barthes, au fond, fait dans le degré zéro de l'écriture, c'est une histoire des signes littéraires. Comment, au fond, la littérature n'a cessé de produire sa propre image en produisant les signes qu'elle était la littérature. Les écrivains ne cessent, au fond, dans leurs livres, d'afficher qu'ils sont la littérature, que le roman.
Et ils ne s'en rendent pas compte.
Ils ne s'en rendent pas compte. Et cela, comme pour, au fond, s'écarter de l'histoire, s'écarter de ce qui pourrait précisément déranger le mythe littéraire. Et Barthes considère qu'au fond, on arrivait à une forme de, en 40, après au milieu du XXe siècle, une forme d'épuisement de cette littérature, une forme d'impasse, en quelque sorte, que plus aucun chef-d'œuvre littéraire n'est plus possible, parce que les romans ou les œuvres ne font que répéter, que ressasser, finalement, comme la messe, un rituel complètement dépassé, et que pour cela, il faut donc, en quelque sorte, alléger l'écriture de cette littérature qui est comme son parasite, comme une sorte d'élément parasite qui vient la lester, la faire peser et la défigurer en quelque sorte.
Donc Barthes prend comme exemple Camus. Est-ce que Camus, du coup, a dépassé cette ancienne littérature?
Voilà. Il l'a déplacée de manière un peu
exceptionnelle. Mais sans la théoriser alors.
Il l'a dépassée par l'étranger. Mais au fond, Barthes à la fois c'est Camus, mais c'est surtout l'étranger qui est au fond son objet. Quand Camus publie La Peste, Barthes a publié un article extrêmement violent, méchant, dur contre Camus, contre La Peste, comme rattache absolu. Et donc, comme s'il voulait se débarrasser du fait d'être attaché à Camus. Hein, comme s'il voulait, ne pas être trop lié à un écrivain. Comme s'il voulait s'approprier, justement, l'étranger comme phénomène d'écriture très particulier qu'il a interprété. Et comme si ça devait rester au fond du Barthes. Comme si l'étranger devait rester du Barthes, à savoir l'idée d'écriture blanche, l'écriture neutre, l'idée de où l'écrivain parvient justement à se débarrasser des signes littéraires.
Et les néo-romanciers sont des gens qui ont tiré les conséquences de cet article-là, les néo-romanciers.
Alors voilà, ça va être au fond ce que Barthes va disons espérer avec Robrier. Enfin, mais Barthes va constamment faire des petits paris sur l'actualité littéraire. Il va parier sur des irruptions, des possibilités que l'écriture, que ce degré zéro là, s'incarne dans des livres. Et Robrier, il y a un enthousiasme réel de Barthes pour Robrier, avec Le Voyeur, avec La Jalousie, avec les premiers romans de Robrié qui semblent, pour Barthes, être des sortes de réussite. Mais au fond, on voit bien là que Barthes n'est pas un critique, qu'en fait, c'est un faux critique. Barthes s'empare de Robrié pour son propre compte et pour sa propre pensée. Et donc, du coup, il doit forcément sacrifier ce qu'il promeut. C'est-à-dire, comme pour Camus, qu'il a d'abord promu avec L'Étranger, puis qu'il sacrifie avec La Peste, de la même manière, avec Robrié, il va le sacrifier après l'avoir promu avec l'année dernière Marianne Barthes, par exemple, qu'il ne va plus aimer Robrié et que Robrié ne sera plus important. Donc il y a cette opération constante, si vous voulez, de trouver le degré zéro partout là où il peut apparaître et en même temps d'abandonner ses œuvres une fois que Barthes les a consommées pour lui-même, pour sa propre pensée.
Donc il y a ce premier mouvement, Éric Marty, de débarrasser la littérature de ses mythes, et dans un deuxième mouvement, avec les articles des mythologies, qui ensuite formeront un recueil avec une préface dans laquelle il expliquera sa démarche, Barthes, là, va étendre cette même méthode, mais aux images de la vie quotidienne, aux images ce qu'il lit dans les journaux, ce qu'il voit dans les journaux, par exemple, les célèbres publicités pour la DS, par exemple, mais aussi d'autres articles. On peut prendre, si vous le souhaitez, quelques exemples pour bien expliquer en quoi on est dans la continuité, mais avec quelque chose qui est peut-être encore vraiment davantage politique, là. Il y a une prise de position plus forte sur dans quel monde on vit à l'époque de Barthes, a fortiori encore aujourd'hui.
Oui, d'ailleurs, il y a une logique là-dedans. Dans le fait même d'avoir, en quelque sorte, répudié la littérature comme une sorte de parasite de l'écriture, c'est pas pour y rester, justement, que Barthes écrit. C'est pour s'en sortir. Et comment en sortir mieux que en explorant le monde, en le traitant, en le lisant, en le décryptant. Et donc, en effet, les mythologies sont une manière de continuer l'opération faite sur la littérature en l'appliquant à la société et à ses mythes. De même que la littérature est un mythe littéraire qui parasite l'écriture, de la même manière, les mythologies dans lesquelles nous vivons, qui sont présents dans les objets quotidiens, présents dans les publicités, en effet, présents dans la télévision, dans les images.
Est-ce que vous avez un exemple à nous donner?
Ça peut être aussi bien Poujade que le beefsteak frites que...
Mais en quoi Poujade est une mythologie, alors?
Parce que, justement, il est l'exemple même des stéréotypes qui sont constitutifs de la mythologie française, à savoir l'idée du bon sens, l'idée du naturel, l'idée que le monde est naturel, l'idée que le monde est bien tangible, que ce qui est vrai, c'est ce qu'on touche, c'est ça Poujade. Hein. Eh bien, pour Barthes, c'est évidemment l'inverse. Le monde n'est fait que de signes qui dissolvent la réalité précisément dans le langage. Et faire la mythologie de Poujade, c'est donc mettre en évidence qu'il y a quelque chose de très profond dans l'idéologie française, qui est justement c'était du naturel comme faisant exister les choses, alors qu'en fait, pour Barthes, le naturel est ce qui masque les choses.
Le naturel, c'est le récit qu'on fait des choses, et pour aller même plus loin idéologiquement, c'est le récit que la bourgeoisie, pour reprendre un terme de Barthes, fait des choses pour faire en sorte qu'elles donnent l'impression qu'elles vont d'elles-mêmes.
Oui, alors par exemple, par rapport à la bourgeoisie, Barthes a une notion très très juste, qui est celle d'ex-nomination. La bourgeoisie ne cesse de s'ex-nommer, c'est-à-dire de ne pas se nommer. La bourgeoisie refuse le mot bourgeoisie. La bourgeoisie ne se dit jamais bourgeoisie. Et dans cette opération même d'ex-nomination, on retrouve le processus mythologique qui vise à faire penser que être bourgeois est une chose qui va de soi, qui est là depuis toujours et qui est une forme de nature évidente. Et donc, effectivement, la bourgeoisie est un exemple, est vraiment la source la plus féconde de mythologie. Mais, et ça qui est très important, c'est que le XXe siècle, et notamment la seconde moitié du XXe siècle, a en quelque sorte étendu cette source à ce que Barthes appelle la petite bourgeoisie, qui est au fond le relais le plus important, c'est un relais de masse, le relais de discours bourgeois, de la nature comme alibi, de la nature comme masque de la réalité qui est tout autre, en quelque sorte.
Il y a une critique du mythe, Éric Marty, chez Roland Barthes. Pourtant, le mythe est à la base de beaucoup de littérature, et même d'une grande littérature. Est-ce qu'il n'y a pas une façon aussi de sauver l'idée du mythe? Est-ce que Roland Barthes est systématiquement contre cette idée du mythe?
Voilà, c'est ça qui est aussi frappant chez Barthes, c'est que cette oscillation qu'il y a entre une dimension très violente et très critique, ce qu'on pourrait appeler, ce que Barthes appelle lui-même une sémioclastie, c'est-à-dire une manière de détruire les signes, de briser les choses, d'être polémique. Il le sera beaucoup avec le théâtre au même moment, avec Brecht. Il l'est terriblement avec la France des années 50-60. Et en même temps, il y a chez Barthes une conscience très importante justement de cette responsabilité face au monde. Et donc, parallèlement à cette entreprise de démolition, de destruction, il y a une entreprise qui est tout autre, qui est celle de sauver aussi, en quelque sorte, des objets, des choses. Et au fond, Barthes dit ceci, au fond, nous sommes, par rapport au monde des années 50-60, dans une possibilité soit d'idéologiser, c'est-à-dire de critiquer sans arrêt, soit de poétiser. Poétiser, c'est, dit-il, sauver le sens inaliénable des choses. Il y a un sens inaliénable, et ce sens inaliénable, eh bien, il faut tout de même aussi s'en occuper. Et c'est ce que Barthes fera, en quelque sorte, par la suite, dans ses d'autres livres, dans l'Empire des signes, dans les fragments de l'espoir amoureux, dans la chambre claire. Il y a là du positif, il y a des mythologies heureuses de Barthes, qui sont celles, justement, par où il tente de repérer, d'extraire, de produire le sens inaliénable des choses.
C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez, vous êtes bien sur France Culture. Nous parlons de Roland Barthes avec Éric Marty. Parlons d'un autre essai qui se trouve dans le tome 2 des œuvres complètes que vous avez dirigé au Seuil. C'est sur Racine, parce que là on est dans quelque chose d'assez différent. On est vraiment du côté de la critique littéraire et dans une remise en cause de la façon justement de lire des textes et même des textes très anciens. Alors il publie sur Racine en 1963, et ça va engendrer ce qu'on va appeler la querelle de la nouvelle critique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe à ce moment-là?
Oui, c'est assez fascinant parce que, sur Racine, un livre que je trouve important. D'abord parce qu'il est aussi un peu la source de fragments d'un discours amoureux. Toute la théorie que fait Barthes de l'amour racinien, c'est aussi, c'est en fait une théorie en fait barthésienne au fond de l'amour qu'on va retrouver dans les fragments. Mais ça, c'est un point que, bon, qui est à noter, mais il y a autre chose, il y a ce que vous dites, en effet, il y a le caractère explosif de ce livre qui tient simplement au fait que Barthes, en écrivant sur Racine, au fond, agresse la Sorbonne, pour qui Racine, c'est Racine.
Et en particulier un professeur à la Sorbonne, Raymond Picard, dirigé les œuvres complètes à la Pléiade de Racine.
Raymond Picard, donc, c'est la fameuse phrase, Racine, c'est Racine. Hein. C'est pas le texte de Racine qui intéresse Picard, c'est comment la vie de Racine se projette au fond dans les tragédies et comment on retrouve le caractère de Racine dans ces tragédies. Mmh. Hein,
c'est une mythologie, justement.
Voilà, c'est une parfaite mythologie. Et Barthes construit un livre qui est une véritable machine de guerre, qui n'est pas une machine de guerre volontaire, car Barthes n'est pas, je crois, dans une position polémique à ce moment-là, mais en tout cas, ça le devient dans la réception, mais aussi ça devient par un phénomène très intéressant et très fort, qu'est l'histoire. Parce que, à ce moment-là, il y a des lecteurs. Et ces lecteurs, c'est qui? Ce sont les étudiants de la Sorbonne. Et donc, ce qui va, en fait, gêner Picard, et ce qui va gêner la Sorbonne, c'est pas du tout le fait que Barthes ait écrit sur Racine. C'est le fait que les étudiants de la Sorbonne, qui est cette génération qui vont faire 68, eh bien, transmettent du Barthes dans les copies et que Picard, en corrigeant ses copies sur Racine, lise du Barthes.
Alors, qu'est-ce que Picard lit dans les copies qui viennent de Barthes?
Il lit tout ce qu'il ne veut pas lire, à savoir qu'il lit des choses sur l'inconscient du sujet racinien, il lit des choses sur le rapport de domination, par exemple, entre Néron et Agrippine, il lit des choses, des psychanalyses de personnages, il lit des choses qui, pour lui, sont absolument révoltantes parce qu'elles sont, selon lui, anachroniques par rapport à ce qu'est Racine. Racine doit être pensée dans les termes du XVIIe siècle et pas dans les termes de Freud, de Lacan ou de Jacobson. Et donc le problème, c'est pas tellement... Le problème, c'est un phénomène... C'est ça qui est vraiment un peu intéressant à voir, et c'est pour ça que l'époque est très puissante, c'est qu'il y a des médiations. Ces médiations, c'est la génération des gens qui ont 18, 19 ans en 63, et un peu plus tard, puisque la Carole a lu en 65, 66, donc juste avant 68, et qui va en fond être les médiations de Barthes. Barthes n'est pas quelqu'un qui est inscrit tout seul, il a justement peut-être un auditoire, des lecteurs, et ces lecteurs sont les étudiants. Donc voilà le vrai problème, c'est il y a vraiment quelque chose, il y a un lien très fort entre le Sieur Racine et mai 68. Je dis pas qu'évidemment Barthes a déclenché mai 68, mais qu'en tout cas il y a un lien de corrélation très puissant entre la volonté de détruire les cadres anciens de la pensée et puis mai 68
et de réfléchir à partir de soi-même un texte.
Absolument, tout à fait.
Alors dans ce tome 3, vous avez donc placé en plus de Sur Racine SZ, Sade Fourier, Loyola et aussi L'Empire des Signes. C'est avec ce livre qu'on poursuivra cette conversation avec vous, Éric Marty, juste après la chronique proposée aujourd'hui par Marianne Payot.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Marianne Payot du magazine L'Express. Bonjour Marianne.
Bonjour.
On s'éloigne quelques minutes de Barthes avec vous pour évoquer un livre-enquête de Brigitte Benkemoun qui vient de paraître. Ça s'appelle « Je suis le carnet de Dora Maar », c'est publié chez Stock. Et c'est une véritable enquête de voisinage sur la muse de Picasso.
En effet, cette enquête de Brigitte Benkemoun est le fruit d'une aventure exaltante en fait, d'une conjonction unique dans la vie d'un journaliste. Tout commence en juin 2016 lorsque son mari, un homme fort distrait, perd son agenda Hermès. Il cherche à acquérir le même, finit par trouver son équivalent sur eBay pour 70 euros. Surprise, un petit répertoire téléphonique est resté glissé dans ce carnet datant de 1951. Breton, Brassailles, Chagall, Cocteau, Éluard, Lacan, Léris, Stahl. La liste des inscrits à l'encre marron est édifiante, comme un annuaire du surréalisme de l'art moderne. Un trésor à faire pâlir de jalousie, Patrick Modiano. Mais à qui cet agenda pouvait-il bien appartenir? Dès lors, Brigitte Benkemoun prend la main. Un rien désœuvré alors qu'elle vient de publier Albert le Magnifique, une enquête sur un arrière-grand-oncle à l'étonnant destin, elle fonce. Retrouve son vendeur, une brocanteuse de Gazillac, dans le Lot, qu'il a acquis aux enchères à Sarlat en 2013. Impossible d'en savoir plus. Elle s'obstine, se procure sur Internet un gros bottin parisien de 1952, recoupe adresse et numéro de téléphone, en déduit qu'il va s'agir d'une femme, proche des surréalistes, peintre, il y a en effet là aussi l'adresse d'un entoileur, qui a dû en outre s'allonger chez Lacan, l'arbitre suprême des cas désespérés.
Alors finalement, comment l'autrice va-t-elle finir par retrouver le nom de la propriétaire de ce fameux répertoire?
Eh bien, un jour, Brigitte Benkemoun prend une loupe et voit qu'à la première page, il n'est pas écrit Achille de Ménerbe, comme elle le croyait, mais architecte Ménerbe. Deux peintres ont vécu à l'époque dans ce village de Luberon, Nicolas de Staël et Dora Maar. D'un coup, c'est évident, c'est elle, la femme qui pleure. Elle coche toutes les cases. Dans la foulée, la journaliste lit tous les articles sur celle qui fut la muse et la maîtresse en titre de Picasso de 1936 à 1945, et notamment ceux qui ont paru au moment de sa mort, en 97, à l'âge de 89 ans. Elle découvre aussi un texte datant de 2013 de Marcel Fless, intitulé « Dora Maar de Guernica à Mein Kampf », où il raconte comment il a été son dernier galeriste. C'est la seconde chance de Brigitte Benkemoun, la rencontre décisive. Le grand collectionneur, qui organisa donc en 91 l'exposition d'une douzaine de toiles de Dora Maar, authentifie son écriture. Il lui ouvre son propre carnet d'adresses. C'est ainsi que Brigitte Benkemoun rencontre Aube, la fille de Breton et de Jacqueline Lamba, mais aussi Anne de Staël, Paul Duboucher, Claude Picasso, le fils de François Gillot, le réalisateur Étienne Perrier, seul survivant du carnet, ou encore les ayants droit de Dora. Tous curieux, entre autres, de découvrir le fameux agenda.
Alors, quelle forme prend le livre de Brigitte Benkemoun?
Eh bien, le livre se découpe nom après nom, histoire d'écrire non pas une biographie, mais de raconter les connexions entre Dora et tous ses articles de l'époque. Mais par qui commencer? Finalement, ce sera avec André Breton, le maître du mouvement surréaliste, qui s'intéresse dès 1933 aux clichés et aux collages de cette jolie brune élégante, alors maîtresse de Georges Bataille. Lequel Breton tombe en 1934 sous le charme de Jacqueline Lamba, ancienne condisciple de Dora aux arts décoratifs. En 36, au Domago, c'est une autre histoire, fusionnelle et bientôt sadomasochiste, qui débute entre le dieu Picasso et la photographe peintre née Henriette Dora Markovitch. entrée après entrée par le biais de tous ces chemins de traverse, on suit la folle destinée de Dora, de la flamboyance à la brisure, en passant par Guernica, la rupture, l'hôpital, Lacan et la bigoterie. Les scènes d'anthologie se succèdent, telles que la mort de la mère au cours de l'une de leurs conversations téléphoniques, plus loin une fumeuse séance de spiritisme avec Simone de Beauvoir, ou encore la prise de bec entre Picasso et André Marchand à Arles. Autant de scènes et de portraits décrits avec fougue par une Brigitte Ban Ki-moon, véritablement habitée par son carnet, et qui bénit tous les jours son mari d'avoir perdu le sien.
Et oui, on le comprend, on la comprend. Je suis le carnet de Dora Maar par Brigitte Ban Ki-moon et publié chez Stock. Merci Marianne Payot de notre partenaire L'Express. Et nous parlons de Barthes cette semaine dans la compagnie des auteurs avec Éric Marty qui a publié et édité les 5 tomes de ses œuvres complètes au Seuil. Nous en étions restés avant la chronique au milieu du 3e tome, celui qui comprend également le livre L'Empire des Signes que Barthes évoquait au micro de Jean Chouquet en mai 1970.
Effectivement, je me suis situé ici au niveau de l'écriture ou de ce qu'on appelle maintenant plus pompeusement, d'une façon un peu jargonesque, le signifiant. Je suis resté, disons, dans le signifiant, dans l'écriture, et c'est en cela qu'on peut dire, toute question de valeur mise à part, c'est pas à moi à les poser, qu'effectivement c'est un livre poétique. C'est un livre qui travaille dans la fabrication d'une écriture, d'un langage. D'une écriture et d'un langage qui, eux-mêmes, essayent de retrouver l'écriture et le langage de cette espèce d'empire des signes, n'est-ce pas, que constitue pour moi le Japon, puisque c'est un pays que j'ai vécu au niveau des signes, des significations, des signes qui l'émettaient sans cesse autour de moi, devant moi, en moi, pendant que j'y voyageais. Et c'est pour ça que, en essayant de déchiffrer le Japon comme une écriture, j'ai été amené à saisir dans la vie quotidienne du Japon la nourriture, l'habillement, les rites d'hospitalité, tout ce qui m'apparaissait comme des traits discontinus. Exactement comme les signes d'une écriture sont eux aussi discontinus, même au niveau de la page la plus banale que nous lisons.
Éric Marty, pour continuer à parler de ce concept de mythologie, on pourrait dire qu'il y a une mythologie inversée ou une mythologie heureuse, hein, c'est même ce que vous disiez tout à l'heure en début d'émission, dans la découverte du Japon par Barthes. Barthes va y aller à 3 reprises. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu davantage ce que ça signifie dans sa bouche que de dire qu'il essaye de déchiffrer le Japon comme une écriture ?
Je crois que, comme on le disait, donc Barthes a pu trouver ou espérer trouver en quelque sorte ce degré zéro de l'écriture dans des livres chez Robrier, chez un tel, etc. Mais au fond, la vraie illumination au sens presque proustien du terme, ça a été le Japon. C'était le Japon comme découverte d'un espace où, en effet, il y avait une véritable philosophie du signe, tout à l'inverse de celle de l'Occident. L'Occident, ou la France, disons, comme pays, typique pour Barthes d'un certain système, justement, de sens. L'Occident est ce qui ne cesse d'évacuer les signes, de vouloir substituer aux signes une pseudo-réalité, une sorte de réalité qui vivrait, qui serait vivante, faire normal, faire naturel. Et un pays, justement, où c'est tout à fait l'inverse, où on ne cherche pas à faire naturel, on ne cherche pas à faire vivant, on ne cherche pas justement à faire évident, mais où tout est justement pris dans un système esthétique très rigoureux. En tout cas, que Barthes a halluciné comme étant rigoureux, parce que lorsqu'on va au Japon, on ne retrouve pas forcément le Japon de Barthes. On peut tout à fait trouver un Japon un peu chaotique, un peu grossier, un peu finalement pas si esthétique que ça. En tout cas, donc, le Japon que Barthes a halluciné est un Japon, en effet, qui est l'Empire des Signes, donc le paradis, en quelque sorte, pour lui, au sens où ce qu'il y a d'absolument répugnant dans le système, je dirais, occidental du sens et des signes, eh bien, se voit tout d'un coup disparaître et et dévoiler un autre paysage.
Mais pourtant, on peut difficilement croire qu'il n'y a pas d'oppression aussi dans la manière dont les Japonais utilisent leur langage, leur écriture, leurs signes.
Alors justement, c'est là où peut-être la tricherie profonde de Barthes, c'est-à-dire que Barthes le dit bien d'abord au départ, c'est que le Japon dont il parle est un Japon de fiction, un Japon dont il ne comprend pas la langue, dont il ne connaît pas le sens des mots. Et donc c'est un espace utopique en réalité, et je crois que le Japon tel qu'il est réellement, tel qu'il fonctionne réellement, Barthes l'a deviné, bien sûr, l'a vu, d'autant plus qu'il était très ami avec Maurice Pinguet, qui était un grand spécialiste du Japon, avec qui il conversait, qu'il avait accueilli justement au Japon. Donc Barthes n'est pas un touriste naïf qui ne comprend rien, qui croit... Bon, non, Barthes sait très bien ce qu'est le Japon et voit très bien ce qu'il peut y avoir en effet de... peut-être de... oui, peut-être une forme d'oppression propre à ce système-là, mais dans le point de vue dans lequel se place Barthes, à savoir comme une forme d'explorateur et comme une forme d'amoureux, ou comme une forme d'illuminé comme ça qui découvre un espace tout à fait inouï, eh bien là, on pourrait dire que ces éléments-là disparaissent en effet.
Donc l'Empire des Signes, c'est un roman écrit par Barthes d'une certaine
voilà,
façon.
C'est peut-être l'un des romans. Il y en a plusieurs. C'est l'un des romans écrits par Barthes, mais au sens là, peut-être justement où Barthes peut-être prend le risque de s'éloigner tout à fait du réel. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs là où, au fond, cette époque-là où Barthes est le plus moderne, le plus ultra-moderne, où l'écriture est devenue une sorte de mot fétiche qui prend une puissance et qui prend une dimension tout à fait inouïe, où au fond tout est écriture, où le monde se dissout sous la forme d'une écriture, où les visages ne sont plus que des signes, où l'autre n'est plus qu'une espèce d'assemblage, de combinatoire de signes, où l'écriture est partout, et donc il y a une forme, on pourrait dire peut-être, de fétichisation, un peu perverse peut-être.
Pourquoi perverse ?
Parce que dans le mot fétiche même, il y a une sorte de chemin vers des formes, je dirais, de perversion au sens où l'autre est un peu néantisé en quelque sorte. Quand Barthes regarde le visage d'un Japonais et il dit à propos du regard la fente et non pas l'âme, eh bien ça veut dire que au fond les yeux, alors d'abord il y a quand même une attraction pour les paupières bridées, pour une forme, il y a une forme d'attachement presque physique pour cette espèce de fétiche que sont les yeux bridés. Mmh. Et puis la fente et non pas l'âme, ça veut dire aussi une manière de peut-être de percevoir l'autre dans une forme pure qui serait vide au fond. Alors vider l'autre, ça peut être un peu peut-être un premier point vers une forme de déréalisation de l'autre. Donc je dirais que SZ aussi, l'Empire des Signes, le Salfayolola sont des livres très marqués par une fétichisation de l'écriture, par une fascination pour l'écriture, qui est très proche d'ailleurs de ce que fait Derrida au même moment. Derrida est dans une même folie, une même idolâtrie pour l'écriture, et pour la dissémination, pour cette espèce de jeu où écriture, peinture, réalité se confondent. Et voilà comment je lis en tout cas cet Empire des Signes.
Il y a des photos dans l'Empire des Signes qui ne sont pas des illustrations du texte, qui n'ont rien à voir, à part le fait que ce sont des photos prises au Japon, des photos aussi de Japonais. Qu'est-ce que ça signifie pour le coup ?
Alors là, c'est aussi une chose très importante, c'est l'irruption de l'image dans l'écriture de Barthes. L'image était déjà présente au fond dans son écriture. Les mythologies sont toutes faites à partir de photographies de Paris Match, de Elle, etc. Mais les images n'apparaissaient pas. Et au fond, l'écriture parlait des images sans réellement les montrer, sans réellement faire jouer cette dialectique entre l'écriture et l'image. Avec l'Empire des Signes, ce qui va être le cas également avec la Chambre claire, et le Roland Barthes par Roland Barthes, bien sûr, Barthes invente un nouveau type de livre, ce que on pourrait appeler des albums ou des espèces de dispositifs très très beaux, très très réussis, très pensés, qui obligent à une lecture autre que la lecture linéaire des textes, qui permettent justement de lire autrement. Et là, on pourrait dire que Barthes est vraiment écrivain au sens où il invente ou recrée, je ne sais pas s'il invente ou s'il recrée, en tout cas, invente ou recrée des formes neuves, des formes en tout cas inédites, des formes propres en tout cas de livres, qui sont ces dispositifs texte-image très particuliers, très singuliers.
J'ai voulu restituer ou simuler l'espèce de désordre de langage qui passe dans la tête d'un sujet amoureux. Le sujet amoureux, au fond, ne peut donner lui-même absolument aucun sens, il ne peut pas donner le sens d'un destin à ce qu'il vit. Bien sûr, une fois que l'épisode amoureux est fini, il est très possible de le construire rétroactivement comme un destin. Mais quand on est dedans, on est plongé dans une sorte de désordre profond, de ces sortes de bouffées d'épisodes de langage qui vous passent dans la tête, et par là même, le roman est une sorte de construction a posteriori qui falsifie cette sorte de désordre extrêmement vif, qui fait d'ailleurs que couramment, enfin le sentiment populaire depuis très longtemps, parle de l'amoureux comme d'un fou.
On vient d'entendre Roland Barthes en 1977 au micro de François-Régis Bastide parler des fragments d'un discours amoureux. C'est un livre, Éric Marty, d'une originalité totale. Il n'y a pas de modèle de ce livre parmi ses contemporains. On a peut-être avant, mais alors d'une autre manière, mais un livre comme ça, on n'en a pas lu à cette époque-là.
Non, c'est peut-être d'ailleurs ce qui a un peu été reproché à Barthes par ses contemporains, c'est-à-dire par les théoriciens, par les philosophes. Déjà, le Roland Barthes par Roland Barthes a été perçu...
Cette autobiographie de Barthes avec des photos aussi qui sont là très importantes, c'est des photos de lui et de sa mère.
Avait déjà été perçu comme une forme de concession, une forme de relâchement, une forme de, disons, oui, de relâchement par rapport à la théorie, par rapport à la théorie qui était toute puissante, qui devait gouverner l'écriture. Et les fragments d'un discours amoureux, par le succès énorme qu'il a eu,
un best-seller
a été enfin un élément supplémentaire, si vous voulez, d'une sorte d'écart qui s'est creusé à ce moment-là, peut-être entre Barthes et ses contemporains. Même si, par exemple, Foucault, au même moment, fait venir Barthes au Collège de France, il n'empêche que...
Mais ça n'a pas été simple, quand même, de faire venir Barthes au Collège de France. Vous rappelez qu'il n'avait pas tellement le pédigré ni le CV pour entrer au Collège.
Tout à fait. Et en même temps, et Francisco Amoureux reste complètement fidèle, je pense, à la position de Barthes, et y compris au degré zéro de l'écriture. Au fond, les fragments d'un discours amoureux, c'est aussi l'anti-roman par excellence. Et c'est ce que dit Barthes dans l'extrait que vous avez passé. Au fond, le roman d'amour, c'est ce qui trahit absolument ce qu'est l'état amoureux, qui lui est amoureux, qui est celui du balbutiement, de la vacillation, du vertige, de l'étourdissement, mais qui n'est jamais une histoire. Et Barthes dit bien, l'histoire d'amour, c'est le tribut que l'amoureux doit payer à la société pour se réconcilier avec elle. C'est une phrase très importante, là, parce que on pourrait dire que pour Barthes, le roman d'amour, c'est l'aliénation, c'est la défiguration de l'amour.
C'est la justification de l'amour, voilà, aux yeux de la société.
La justification sociale, au fond, c'est la société a besoin de romans d'amour pour consommer l'amour sous une forme toute faite, une forme non dérangeante, une forme finalement confortable. Or, Fragment d'espoir brut se veut le contraire, veut, alors je ne sais pas s'il réussit, mais veut cette espèce d'état de folie du sujet amoureux, cet état de vacillement qui est une folie, d'ailleurs, que Barthes précise comme étant une folie qui n'est pas une folie, d'ailleurs, qui a le prestige de la grande folie, qui est une folie sage, une folie simple, une folie ordinaire, qu'est la folie, au fond, de nous deux, qu'est la folie, en quelque sorte, plutôt apparemment quiète ou apparemment normale. Et donc, l'amoureux, pour Barthes, est un sujet très important parce que il est ni dans la société ni dans cette espèce de force extravagante du grand fou, de celui de l'aventurier, de celui qui serait extrême. Non, le fou, l'amoureux, c'est ce sujet qui est un petit peu incertain et dont Barthes donc reconstitue les fragments de parole.
Donc ces fragments de parole constituent un inventaire finalement de tous les états par lesquels les amoureux peuvent passer, ou l'amoureux peut passer, parce que finalement c'est très solitaire l'amour, nous explique Barthes.
Un itinéraire qui est alphabétique, qui reprend tous les mots de l'alphabet, qui reprend l'ordre de l'alphabet, jusqu'avec cette fin très belle, où Barthes triche un petit peu, puisque alphabétiquement ça aurait pas dû être là que ce fragment aurait dû se placer, qui est le non vouloir saisir.
Et qu'une Alors, forme qu'est-ce que ça veut dire,
voilà,
le non vouloir
saisir?
Une
forme de conclusion très belle, je crois, une forme de résolution à l'angoisse de l'amour. Eh bien, voilà, l'amour peut être vécu sur un mode non plus déchirant, non plus frustrant, non plus angoissant, dès lors que on accepte de ne pas vouloir saisir l'autre. Le non vouloir saisir, NVS, Barthes aime bien les acronymes et jouer avec le signifiant justement de ce type-là. Le NVS, le non vouloir saisir, c'est cette capacité, cette sagesse, cette position presque orientale, hein, par où j'accepte de ne pas posséder l'autre. Et donc c'est une forme de fin qui est une fin positive en quelque sorte, une fin de sagesse très difficile, qui est celle donc d'un non vouloir saisir et qui va dans le sens justement aussi d'une sorte de philosophie très orientale que Barthes à ce moment-là, en liaison avec l'Empire des signes d'ailleurs, qui est celle du neutre en quelque sorte, du neutre, peut déployer.
Ce qui explique aussi le succès immense de ce livre, je crois que c'est 150 000 exemplaires qui ont été vendus de ce livre, c'est la manière dont il est écrit qui permet à chacun, à chaque lecteur, et là on retrouve la théorie du texte de Barthes, de s'approprier ce texte comme s'il avait été écrit spécialement pour lui.
Oui, c'est un livre qui a un succès aussi parce que finalement, chaque fois que quelqu'un a un chagrin d'amour, on lui offre fragment de discours amoureux pour le consoler.
Et donc, et il y a comme un ça succès. Arrive souvent.
Il y a donc, en effet, c'est un livre qui continue à se vendre beaucoup. À chaque année, il y a 3000 ou 4000 exemplaires de livres qui se vendent annuellement. Donc, il y a ça. Et il y a cette possibilité, en effet, de suivre ses propres itinéraires. Alors évidemment, il y a des fragments plus ou moins qui sont plus ou moins populaires. Le rendez-vous, évidemment, est un fragment très important parce que chacun a vécu ses rendez-vous. On attend l'autre et on s'angoisse de ne voir pas venir. On croit le voir dans n'importe quelle silhouette. Donc il y a des fragments plus ou moins, mais en même temps, c'est un livre extrêmement subtil, très 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 délicat, où l'ombre de Goethe est là, présente avec Werther. Où Sade même est présent, où il y a tout un univers aussi d'écriture.
Pourtant, Sade, on n'imagine pas tellement que c'est des lectures qu'aimait Roland Barthes, qui étaient dans la délicatesse.
Oui, ben justement, c'est la délicatesse sadienne peut-être qui intervient, c'est-à-dire ce moment justement où le discours pervers de sadien prend une dimension délicate par sa subtilité, par sa précision. Et donc, il y a tout cet univers littéraire qui est aussi d'écriture, qui il y a les amis beaucoup, les amis qui sont autour, qui sont cités, il y a cette tabou-là, cette table des amis qui vient s'associer à l'écriture de Barthes. Et donc, c'est aussi un livre très important parce que je crois que Barthes réussit à trouver une forme tout à fait, en effet, comme vous le disiez, très singulière et forte pour cet objet.
Comment parlait-il de son œuvre à des gens qui, comme vous, allaient le voir, le fréquenter? Est-ce qu'il en parlait d'abord facilement? Et est-ce qu'il avait envie qu'on la comprenne de telle ou telle manière? Avez-vous des souvenirs à nous livrer là-dessus?
Non, parce qu'il n'en parlait pas, pratiquement pas. Mais en même temps, il était... par la suite, j'ai pu le constater qu'en effet c'est important. Barthes tenait un fichier très toute sa vie comme ça où il notait des choses. Et en voyant ce fichier, il y a par exemple une fiche où il dit après l'apparition de Jean Leclerc qu'il est très heureux de recevoir une lettre de moi qui commande son livre. Et il dit sa joie de voir ce livre compris. Donc, alors qu'il m'en a jamais parlé de cette lettre, ou très peu, où il n'y avait pas de... De toute façon, Barthes était quelqu'un de très, très silencieux. Je le raconte un peu dans mon livre, Mémoire de Roland Barthes, le métier d'écrire, quelqu'un de très silencieux, qui parlait très peu de lui. Mais en même temps, comme il était constamment écrivain, en fond, on le voyait justement peut-être dans le quotidien, en position d'écriture, mais pas en position d'être un écrivain qui a des livres. Il était écrivain parce que il était constamment, quotidiennement, en position d'être l'écrivain, mais non pas celui qui parlait de ses livres, en quelque sorte.
Aujourd'hui, Roland Barthes, c'est vraiment un des très grands penseurs français qui continue d'irriguer la pensée mondiale, Éric Marty.
Oui et non. Oui, à mon sens, oui, parce que Il est toujours très lu, toujours très commenté, en France, comme aux États-Unis, comme en Chine. Enfin, moi, je le vois comme universitaire, parce que j'ai beaucoup de demandes de thèse ou de master autour de Barthes. On voit très bien qu'il y a une... En même temps, l'époque n'est pas barthésienne. L'époque est... Il y a un retour un peu de Zhdanov, du zhdanovisme, c'est-à-dire du réalisme socialiste, presque du réalisme soviétique.
Qui était une mythologie aussi,
dans la littérature.
Selon Barthes.
C'est-à-dire que le formalisme, maintenant, est devenu comme quelque chose de très élitiste. Très 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 élitiste, très très presque bourgeois, très mâle blanc dominant, et on va plutôt vers une littérature qui se veut faite d'enquêtes, de réalité sociale, de collectivité, d'anonymat, etc. On pourrait dire que Jacques Rancière était le premier Zhdanov de la de cette époque-là, dans Le Maître ignorant, en critiquant le formalisme comme la grande erreur au fond des modernes, et en proposant justement cette espèce d'apologie de l'ignorance, de l'anonymat et du réel. C'est un peu ce qui domine notre époque.
C'est sur cette petite pique que nous allons nous quitter. Merci Éric Marty. Je rappelle que vous êtes romancier et professeur à l'Université Paris Diderot, auteur de très nombreux ouvrages, parmi lesquels Roland Barthes, La littérature et le droit à la mort qu'on n'avait pas cité, également donc les œuvres complètes que vous avez éditées de Barthes, l'album Barthes en 2015, et puis vous avez édité toujours chez aux éditions du Seuil, La préparation du roman. C'était La Compagnie des auteurs, une émission d'Anne Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Laurence Millet, Garance Mazelier, Didier Pinault et Pierrick Monsigny. Demain, suite de notre semaine Barthes, nous serons avec Carlo Ossola, puis avec Mathieu Messager pour évoquer notamment le plaisir et la jouissance du texte. Ça n'est pas la même chose. Tout de suite, plaisir et jouissance de la poésie, c'est avec Jacques Bonafé.
Bonjour la compagnie. Ça tient à quoi ? Est un livre de poésie de François de Cornière. C'est un voyage. Notre lecture est un voyage précédé d'un carnet, les notes d'un homme qui change de lieu et nous voyageons à sa suite. Oui, tous les poètes font ça. Ils prennent des photos, un peu sismographes des paysages. Oui, oui, mais lui, c'est François de Cornière. Ego l'ego. La nuit, quand il ne dort pas, l'homme joue au l'ego. Avec des morceaux de sa vie. Les yeux fermés, il les assemble, sans idée précise. Des images s'imbriquent les unes dans les autres, il ne sait pas pourquoi elles remontent, comme d'une arrière-mémoire. Objets qu'on retrouvait sous un buffet qu'il fallait repêcher à plat ventre avec un balai, on les croyait perdus. Parfois l'homme se donne un thème, par exemple les maisons où il a vécu, et les photos reviennent comme celles de la rue Essalam au Maroc avec Pierre. Il se demande comment de telles petites briques ont pu tenir puisqu'il les revoit intactes. Vers le matin, l'homme se rendort. Il songe à ce Lego imaginaire qui l'aide à reconstruire il ne sait pas quoi. Tiens, un poème de Marie-Claire Bancard sorti de terre énergumène et qui passe là. Voici 20 ou 30 siècles, un poète, mon frère, regardait l'insecte minuscule cheminant le long de son bras. Il s'étonnait avec violence d'être là, au monde, en même temps que lui, dans un pli commun des immenses combinaisons de l'univers. Attentats-guerres, soleils en délire, non loin brûlaient des villes, par hasard épargnés, par hasard ensemble, entre les lignes de l'inexorable, durait le poète et la bête. Oh, comme c'est beau, Marie-Claire. Marie-Claire Bancard est morte en février. Ça tient à quoi ? C'est un livre de François de Cornière. Et voilà qu'assis sur le sable, après avoir nagé, j'avais regardé, suspendu dans le ciel, un tout petit nuage. Il n'y avait plus personne à cette heure sur la plage, le soleil était bas, juste en face de moi. J'avais mis mes lunettes de soleil, j'avais posé mon livre ne pouvant m'empêcher de regarder le tout petit nuage. Il n'y en avait pas d'autre. Qu'est-ce que je peux faire avec lui, comment écrire ce que je ressens? Le tout petit nuage ne bougeait pas, des mouettes étaient posées sur un miroir, pas un souffle. Cela se passait dans mon carnet de l'an dernier. 3 juin, nage du soir, un tout petit nuage, grand ciel bleu. Mon émotion est toujours là. Je me demande, ça tient à quoi ? Ça tient à quoi ?
Merci Jacques Bonafé, on retrouve les références de vos lectures sur votre page au sein du site de France Culture.